France Inter. Éric Delvaux. Le téléphone sonne.
Alors certes, les Jeux paralympiques sont moins médiatisés que les Jeux olympiques, mais ils drainent tout de même depuis 20 ans toujours plus de téléspectateurs et d'auditeurs. Une centaine d'heures sur France Télévisions et Radio France pour diffuser les Paralympiques de Tokyo, c'est un record et bien ça démontre un engouement croissant pour ces athlètes. Et c'est l'occasion ce soir de s'intéresser aux personnes en situation de handicap. Beaucoup de textes en France, beaucoup de lois aussi par exemple sur les obligations d'accessibilité aux bâtiments publics, aux transports, mais a priori peu de sanctions effectives quand les textes ne sont pas respectés. Ce soir on va parler de handisport et de sport adapté aussi. Et du dossier brûlant du moment, l'avenir de l'allocation adulte handicapé. Appelez-nous, les standardistes de France Inter sont là jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Avec trois invités ce soir pour vous répondre, Pascal Ribe, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente de l'APF France Handicap. En ligne également, Sylvain Payette, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes nageur aux Jeux paralympiques de Sydney, par exemple, en 2000, membre du comité directeur de la Fédération française handisport et aussi délégué général de la plateforme J'accède. Et vous êtes en duplex de France Bleu Lille et en studio à Paris, Soraya Compagnie. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes architecte urbaniste et présidente de l'association pour la promotion de l'accessibilité et de la conception pour tous. Sylvain Payette, je commence par vous. Les Jeux paralympiques, est-ce que ça change durablement le regard des valides sur le handicap ?
Oui, ça change durablement et ça permet un accélérateur formidable sur le changement du regard et sur la perception qu'on a des personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap, qu'il soit moteur, qu'il soit déficient visuel ou avec un handicap mental. On a différents participants qui participent à ces différents jeux et l'accueil de ces Jeux paralympiques est un formidable accélérateur. Déjà, y participer et puis le médiatiser, c'est un moyen de changer le regard, mais pouvoir les accueillir, ça sera un accélérateur d'autant plus important.
En 2000, à Sydney, quand vous aviez concouru comme nageur, de nouvelles disciplines étaient apparues. Hein. Je pense au rugby en fauteuil roulant, ou au para-badminton, ou au para-taekwondo. Il n'y a pratiquement plus de limites aux disciplines sportives dans les handisports.
Alors, il y a plus de limites. Ces disciplines-là sont apparues plus récemment qu'en 2000, mais on a eu, au fur et à mesure du programme et de la construction du programme des Jeux paralympiques, comme vous l'avez dit, des nouvelles disciplines, parce qu'en fait, on a aussi de nouveaux pratiquants et des personnes en situation de handicap qui vont aller vers des pratiques inclusives et permettre, du coup, de pouvoir proposer des programmes comme le taekwondo, le quad rugby. Et c'est l'évolution du sport naturel, comme on va voir sur les prochains Jeux Olympiques, qu'on a vu sur les derniers Jeux Olympiques, des nouvelles disciplines, comme le skateboard pour les Jeux valides. On a des nouvelles disciplines pour les sports paralympiques, parce que voilà, on a de plus en plus de clubs qui intègrent dans tous les pays des personnes en situation de handicap.
Et pour les déficients mentaux ou intellectuels, là on ne parle plus de handisport, mais de sport adapté, c'est quoi la différence ?
Alors sémantiquement, on a deux abréviations, enfin en tout cas on a deux appellations différentes, parce que historiquement ces deux mouvements se sont construits de manière un petit peu parallèle par les organisations qui les ont portés, même si ce sont deux fédérations qui sont très proches parce qu'elles ont des intérêts communs et elles prennent en charge des personnes qui ont des besoins spécifiques. Donc, mais c'est juste que structurellement, depuis le début, ces deux mouvements se sont organisés différemment de par les bénévoles qui les ont mis en place.
Pascal Ribe, vous êtes la présidente de l'APF France Handicap. Alors je vous lis déjà quelques mails, celui de Bernadette. Je crains qu'une fois de plus ce soir on aborde que l'angle de l'accessibilité physique au fauteuil roulant, alors que le handicap c'est aussi l'accès à l'éducation avec bien d'autres handicaps, l'accès à l'éducation, à la culture, aux loisirs, au sport et bien sûr au travail. Le handicap, Pascal Ribe, ce n'est pas donc que être en fauteuil roulant, il faut le rappeler encore.
L'accessibilité, elle est universelle finalement ou elle n'est pas. Hein. Donc c'est quel que soit le type de handicap, quelles que soient les difficultés rencontrées par la personne. Mais si vous me permettez, j'aimerais bien faire un petit, revenir sur la question des Jeux Olympiques. Mmh. Puisque ce sera quand même une première en France. C'est la première fois que la France accueillera en 2024 à la fois les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et c'est vrai qu'on avait déjà accueilli précédemment les Jeux Olympiques, mais ce sera vraiment une première pour les Jeux Paralympiques. Et moi, j'ai envie de dire que effectivement, ça peut être un accélérateur pour l'accessibilité. On espère que ça le sera. En tout cas, c'est une opportunité à ne sûrement pas rater. Et si Paris 2024, c'est une vraie chance pour les personnes en situation de handicap et pour notre association, pour transformer l'accessibilité pour les transports en commun, pour les lieux publics, etc. Il faut que ce soit une vraie transformation durable et que ça ne se transforme pas, j'ai envie de dire. Enfin, il faut vraiment que la France elle soit à la hauteur de ce rendez-vous, que ce soit pas un cauchemar ou une honte, quoi, parce que aujourd'hui, on peut dire qu'on n'y est quand même pas encore et que 2024, c'est demain. Voilà.
Alors, il y a une loi que les auditeurs aimeraient rappeler. Il y a une loi fondatrice en faveur des personnes en situation de handicap. C'est la loi de 2005, Pascal Ribes.
Oui.
On verra qu'elle n'est pas toujours appliquée. Mais d'abord, expliquez-nous quelles sont les ambitions de cette loi en général.
Alors, déjà, je voudrais vous remercier quand même de consacrer votre émission au sujet du handicap et particulièrement à l'accessibilité parce que c'est un vrai sujet important dont on parle pas suffisamment et qui est finalement à double détente, j'ai envie de dire, parce que c'est à la fois facteur de progrès social donc pour les personnes en situation de handicap. Il y a quand même 20% de personnes en situation de handicap, quel tout handicap confondu en France.
Attendez, pardon, mais c'est 20% des Français en situation de handicap. Hein,
Oui, tout handicap confondu. Donc, vous voyez, c'est pas que le fauteuil roulant. Et c'est aussi, un sujet éminemment important, je disais, un peu à double détente, parce que c'est aussi important pour toute la société, parce que ça entraîne un changement social de nature à permettre une meilleure, finalement, vie en société pour tous. Le sujet de l'accessibilité, il conditionne vraiment l'accès à tout dans la vie quotidienne pour toutes les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes qui sont handicapées temporairement, ou gênés temporairement dans leur mobilité, les mamans avec les poussettes, enfin tous ceux qui ont donc une entrave dans leur modalité de déplacement, et ils sont nombreux. Donc c'est vraiment, alors en plus c'est vraiment pas une option, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est un droit fondamental qui doit être garanti à tous les citoyens. Mmh. Il y a aucune raison que finalement seuls les citoyens bien portants puissent pouvoir avoir accès à tout pour tout, pour tous. Donc aujourd'hui en France on n'y est pas, le compte n'y est pas, on n'est pas sur l'accessibilité universelle ça ne progresse pas assez vite. Et vous avez évoqué tout à l'heure l'historique. Il faut savoir que quand même, parce que du coup, dès lors qu'un environnement est inaccessible, ça porte atteinte à toutes les personnes qui ne sont pas, à un certain nombre de personnes qui ont des entraves dans leur mobilité et qui ne peuvent pas du coup bénéficier des mêmes cadre social que les autres. Ça a commencé en 75 déjà, donc ça fait quand même près de 50 ans que l'accessibilité, elle était déjà promise, elle était dans la loi de 75. Cette loi, malheureusement, faute de texte réglementaire, elle a jamais été appliquée. Mmh. Ensuite, en 2005, on a eu de nouveau de l'espoir parce qu'on a eu une nouvelle loi, la loi du 11 février 2005, vous en parliez tout à l'heure, qui, elle, affirmait et posait vraiment dans le marbre l'obligation d'accessibilité pour les bâtiments neufs, donc à sortir de terre, et qui prévoyait, donc dès 2005, et qui prévoyait la mise en accessibilité totale dans un délai de 10 ans maximum pour les bâtiments anciens. Voilà, donc il y avait une échéance.
Il y avait des ambitions, mais on va voir dans un instant.
Il y avait une ambition, il y avait des échéances, oui. L'échéance c'était 2015.
Et
une nouvelle loi, les ADAP, est venue finalement porter un premier coup à cette obligation non équivoque qui était portée par la loi de 2005, pour en permettant, via les ADAP, de finalement exonérer, déroger à cette obligation d'accessibilité qui, je le redis, est un droit fondamental, en accordant en plus des délais supplémentaires de 3, 6 ou 9 ans en fonction des établissements pour que ils se mettent en accessibilité. Oui. En 2017,
On est obligé de décourter un peu, sinon on y passe effectivement sur l'historique, on va y passer l'émission.
Non, mais c'est l'historique, il est important pour montrer qu'en vérité, simplement, l'ambition,
on a compris l'idée générale, c'est qu'il y a des ambitions, mais pas respectées.
Portées, et que à chaque fois qu'on a eu des textes, eh bien, quelques temps plus tard, on en a eu d'autres qui sont venus donc détruire l'ambition initiale portée par les textes.
On va aller au standard dans un instant. On va aller au standard prendre des questions d'auditeurs. C'est un peu la règle du jeu dans cette émission. Et avant, je voudrais quand même entendre Soraya Compagny. Vous êtes architecte, urbaniste et présidente de l'association pour la promotion de l'accessibilité et de la conception pour tous. On l'a entendu, il faut batailler dur pour faire accepter et finaliser des principes. Batailler contre qui pour finaliser des constructions et des équipements publics adaptés aux personnes handicapées?
C'est une très bonne question, effectivement. Batailler contre qui? En France, comme disait Pascal Ribes, nous avons une réglementation importante. Depuis, d'ailleurs, 75...
On a fait l'historique, on ne va pas y revenir.
Tout ça, on a cette réglementation. Mais ce qu'il faut faire, il faut savoir, c'est qu'en fait, le fait d'avoir une réglementation ne suffit pas. Elle n'est pas uniquement un moyen. Il faut pouvoir former, informer, sensibiliser à cette question de l'accessibilité.
La réglementation... Mais qui n'est pas sensibilisé, par exemple? Qui il faut sensibiliser? J'ai l'impression que les élus le sont, les gens qui construisent le sont, et finalement, ça n'aboutit pas, quand même.
Ça n'aboutit pas. Parce que il y a quand même, souvent, malentendu en matière d'accessibilité. La question de l'accessibilité en France, c'est l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Certains disent, effectivement, beaucoup de choses ont été faites, ce qui est vrai, depuis 2005, beaucoup de choses ont été faites. Mais d'autres disent, il n'y a pas encore suffisamment d'accessibilité faite. Ce n'est pas la sensibilisation au niveau des élus, oui, ça existe. Mais là où il n'existe pas, au niveau des professionnels, au niveau des concepteurs dès le départ, au niveau des acteurs économiques, où cette question de sensibilisation, de formation, la formation est particulièrement importante.
C'est-à-dire que les étudiants architectes, urbanistes ne sont pas formés aux problèmes que rencontrent les handicapés.
Aux problèmes qui rencontrent les handicapés, ils ne sont pas formés au fait que l'accessibilité n'est pas uniquement une réponse, comme vous disiez, comme se disait cet auditeur, une réponse à une personne en fauteuil roulant devant des marches d'escalier, c'est pas ça. L'accessibilité, ça concerne aussi l'Internet, ça concerne le téléphone,
ça concerne tout ça. Voilà. On va aller au standard de France Inter avec Kamel. Bonsoir Kamel.
Bonsoir, moi je vous appelle de Toulouse.
À Toulouse.
Pour vous dire, j'ai été moi-même visiteur de Paris, comme pas mal de personnes, j'ai eu moi-même je suis moi-même reconnu une personne handicapée. Bon, point. Je vais vous dire que Paris, pour moi, c'est la ville la moins agencée, la moins équipée concernant les transports en commun, surtout, concernant les personnes paraplégiques ou handicapées divers. Voilà, c'est la ville, pour moi, c'est la ville, je trouve, l'accessibilité pour une personne handicapée, que ce soit dans le métro ou dans les bus, c'est mal agencé, c'est mal, voilà, on n'y arrive pas, quoi.
Très bien, mais j'ai entendu ce témoignage. On va demander à Pascal Ribes. Pascal Ribes, présidente de l'APF France Handicap. Quand une commune n'applique pas l'obligation d'accessibilité, quel type de sanctions est prévue ou sont prévues? Il y a plusieurs types de sanctions, j'imagine.
Oui, voilà. Alors peut-être que c'est pas l'idée de rentrer dans le type de sanction, puisqu'on voit bien que malheureusement ça marche pas non plus. Hein,
ce sont des sanctions administratives ou financières?
Le résultat, ça dépend. Mais là, aujourd'hui, monsieur parlait juste avant d'effectivement de la ville de Paris, et donc nous avons fait un sondage IFOP concernant l'accessibilité en France, avec donc un certain nombre d'où il ressort un certain nombre de chiffres clés, et on a classé un certain nombre de métropoles de plus de 400 000 habitants, et effectivement. Paris n'est pas super bien classé, voire même arrive dans les presque avant-derniers, enfin etc. Donc on a en tête un certain nombre d'autres villes. Donc c'est la preuve quand même que c'est possible. Il y a un certain nombre de métropoles comme Grenoble par exemple qui ont une meilleure en tout cas proportion d'habitants en tout cas qui sont satisfaits. Et l'enquête en question, il est quand même intéressant de savoir que ça n'est pas uniquement les personnes en situation de handicap qui ont répondu à cette enquête-là, pardon. Elle a vraiment été très très large. Il y a beaucoup de personnes donc qui étaient pas du tout en situation de handicap, qui ont également répondu à peu près la moitié en situation de handicap et l'autre le reste des profils des répondants, des autres profils des répondants n'étaient pas en situation de handicap.
Sur les infrastructures. Donc voilà,
donc on voit bien que c'est important pour tout le monde, je le redis, parce que lorsqu'une ville, elle est finalement adaptée sur son territoire à l'ensemble de ses citoyens, d'abord ça me paraît la moindre des choses puisque de faire en sorte de pouvoir s'adapter à ses citoyens, mais en plus vraiment pour le coup c'est du mieux vivre pour tout le monde dans ces villes là aux mamans avec les poussettes, aux personnes âgées, enfin à tous ceux qui prennent la voirie, le transport en commun.
Voilà. On va retourner au standard. Avant, juste une question, Sylvain Payette. Je rappelle que vous êtes athlète paralympique. Vous avez été athlète aux Jeux de Sydney en 2000. Compte tenu des infrastructures de l'époque en France, est-ce qu'il était plus difficile de s'entraîner qu'aujourd'hui ?
Oui, il était plus difficile de s'entraîner parce que les acteurs, les pouvoirs publics, les premiers qui sont notamment les concepteurs et les commandeurs de la conception de bâtiments sportifs qui accueillent à l'entraînement et puis aussi en compétition les compétitions d'e-sport ou les compétitions des parasports, ont fait beaucoup d'efforts et on a avancé avec les pouvoirs publics sur ce point-là, notamment en travaillant, et moi ce qui me semble intéressant, c'est aussi de travailler sur l'usage, pas être uniquement dans le respect de la règle, mais d'être aussi sur l'usage, ce qui permet, on l'a évoqué, ça a été évoqué avant, de concerner davantage de personnes que juste catégoriser les personnes en situation de handicap dans différentes catégories, et bien de se dire voilà, c'est une accessibilité universelle, on tend vers ça, on espère y tendre, et en fait en raisonnant par l'usage et pas que par la règle, évidemment qu'il ne faut pas contourner la règle, il ne faut pas l'éviter, il faut essayer de la respecter le plus possible, mais en ayant une approche par l'usage, ça permet de... Et donc c'est vrai que dans les clubs sportifs aujourd'hui, dans tous les clubs sportifs, au-delà de la formation de l'encadrement et de la sensibilisation de l'encadrement, il y a aussi tout le cadre bâti qui permet d'accueillir de plus en plus d'handisportifs ou de parasportifs pour avoir de plus en plus de médailles. On le voit bien, là, on a déjà 4 médailles aux Jeux paralympiques.
4 en tout pour l'instant.
Et donc, on a aussi de plus en plus de Français qui pratiquent à haut niveau dans différents sports. Alors qu'on avait certains sports très emblématiques au niveau des fédérations.
Pour 2024, d'ailleurs, les JO de 2024 à Paris, il devrait y avoir un vaste complexe handisport de 30 000 mètres carrés à Pantin, près de Paris. Est-ce que ça devrait changer durablement les choses ou est-ce que ce sera juste l'arbre qui cachera la forêt, Sylvain Payette ?
Alors on espère que ce ne sera pas l'arbre qui cachera la forêt. On va avoir cet équipement emblématique qui va permettre de montrer par l'exemple que les choses sont possibles. Je vous donnerai un exemple qui a été fait sur la ville de Lille que je connais bien puisque j'y habite et j'y ai pratiqué très longtemps du sport. On a eu la conception d'une salle dédiée au départ pour les personnes en situation de handicap dans le cadre de la construction d'un collège. Et dès le début, les clubs qui allait résider dans cet équipement-là, et il n'y avait pas que des clubs handisport ou sport adapté, ont été associés à la réflexion de la salle. Et quand on est associé à la réflexion avec l'architecte, dès la conception de la salle, et ben ça fonctionne très bien. Et aujourd'hui, on a un équipement qui n'est pas un équipement de 30 000 m², mais qui est hyper fonctionnel et qui accueille à la fois des athlètes, mais surtout aussi des spectateurs en situation de handicap, parce que les personnes en situation de handicap ont aussi le droit d'aller voir des matchs de foot, aller voir du sport, tout comme aller voir un match quand on a des enfants avec une poussette, on a les mêmes contraintes que les personnes en fauteuil, donc ça sert à tout le monde.
On va retourner au standard 01 45 24 7000 avec Angélique qui nous appelle ce soir. Bonsoir Angélique.
Oui, bonsoir.
Quel est votre témoignage ?
Alors,
ou votre question ?
Voilà, donc moi je voulais aborder le constat en fait que les moyens et les projets immobiliers sont souvent concentrés en ville. Voilà, parce qu'il y a des lois qui l'agrandissement des collectivités, tout ça qui ont encore augmenté ce phénomène en fait. Donc moi ce que je constate autour de moi, c'est que la grande majorité des personnes qui sont en situation de handicap trouvent leur vie à la campagne plus adaptée. Parce qu'il y a moins de circulation, moins de risques, et il y a plus de facilité d'avoir des animaux de compagnie, notamment. Donc je voulais savoir qu'est-ce qui était prévu pour pérenniser l'accès à la qualité de vie à la campagne dans un contexte où les moyens sont de moins en moins accessibles pour réaliser les projets.
Alors on a une architecte urbaniste, présidente de l'association pour la promotion et l'accessibilité et de la conception pour tous en studio, Soraya Compagni. On fait visiblement pas mal d'efforts dans les villes et dans la campagne, on fait quoi ?
En matière d'accessibilité dans les campagnes, on fait la même chose, évidemment. Sauf que dans la campagne, la vie est beaucoup plus, je dirais, plus facile, plus agréable, plus d'espace, certainement. Mais en vivant à la campagne, il y a aussi une question de transport qui se pose. Ce qui se pose peut-être différemment en ville. Il y a aussi la question de l'aménagement d'une manière générale, mais de l'aménagement aussi du logement, de l'immobilier. Certes, il y a une convergence à trouver entre l'aspect la vie à la campagne, la vie du travail, la vie économique, la vie école, formation, accès aux différents équipements, aux différentes activités, etc. Donc tout ça, ça va ensemble, et tout ça, c'est une question d'aménagement, c'est une question du développement de la région, c'est une question également de voilà.
On va renvoyer la question à Pascal Ribes à propos des transports et notamment à la campagne. Où est-ce que ça coince pour les personnes en situation de handicap ?
Écoutez, je pense que Soraya Compagni a répondu, plus ou moins globalement et de manière très claire. Donc, il n'y a pas. Alors moi, j'ai des témoignages aussi inverses, hein, à savoir que tout à l'heure, Madame disait, enfin l'auditrice disait que, si j'ai bien compris, que donc c'était plus que les personnes étaient, enfin, avaient une meilleure qualité de vie, certainement la campagne, ça c'est vrai, mais une meilleure accessibilité, pas forcément.
On va oublier la campagne, en règle générale, dans les transports, où est-ce que ça coince ?
Dans les transports, où est-ce que ça coince ? Eh bien, ça coince plus à la campagne qu'en ville, là, c'est clair, pour le coup, me semble-t-il. Parce que à la campagne, il n'y a pas de transport. Enfin, il y a très peu de transports en commun, et quand, lorsqu'ils sont, ils sont relativement pas bien accessibles, hein, ou pas accessibles du tout, alors qu'en ville, on a quand même un pourcentage de par exemple, de bus accessibles, même s'il n'est pas toujours à 100%, qui reste quand même un pourcentage intéressant pour les personnes en situation de handicap.
Parce que la France, elle vient d'être auditionnée par l'ONU sur sa politique en faveur des personnes handicapées. Il y a eu pas mal de critiques qui en sont ressorties. Quels sont les principaux reproches qui sont faits à la France ?
Écoutez, il y en a eu plusieurs, puisqu'on a le principe, c'est que donc la France a été examinée article par article relatif à la Convention internationale des droits des personnes handicapées, et chaque article finalement répond à un domaine, l'éducation, l'emploi, enfin, etc., l'accessibilité. Et donc sur le sujet de plus globalement, ce qui a été donc pointé par le Comité des droits notamment, c'est le fait que il y a une manière plutôt médical d'aborder le handicap en France, et donc de considérer les personnes d'abord avec comme des objets de soins finalement, et pas des sujets de droit. Et donc là-dessus, une demande de réviser cette approche et
trop médicalisée.
Oui, et ce regard porté donc sur les personnes en situation de handicap. Ensuite, sur le sujet de l'accessibilité, typiquement, puisque c'est quand même le sujet dont on parlait, l'ONU a vraiment donc été très étonnée du fait que la France, et par la loi Elan dont je parlais tout à l'heure, notamment renoncé finalement à l'objectif d'accessibilité pour tous dans le 9. C'est juste c'est quelque chose qui ne passe pas, si vous voulez. Voilà.
Au Standard de France Inter, il y a Blandine. Bonsoir, Blandine.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Caen.
Tout à fait. Alors, moi, je voulais réagir par rapport au marquage au sol des classes handicapées, dans un premier temps.
Oui, c'est-à-dire
C'est-à-dire que, en fait, ce sont des fauteuils roulants qu'on voit sur les classes handicapées. Moi, je suis handicapée, et vous me croisez dans la rue, vous ne savez pas que je suis handicapée. Mmh. Si je me gare sur une place handicapée, je peux me faire un petit peu agresser par des gens qui me disent « Mais madame, vous n'êtes pas handicapée ». Eh bien, si, je ne peux pas marcher plus de 10 minutes, voilà. Et je pense que ce marquage au sol, déjà, est un énorme problème.
Alors, exit ce logo, vous mettriez quoi à la place ?
Alors, je ne sais pas du tout, mais il faudrait peut-être diversifier les logos ou je ne sais pas, quelque chose de plus neutre qu'un fauteuil, parce que le handicap est tellement vaste, tellement varié que je trouve ça absolument scandaleux.
Eh bien, Blandine, on va soumettre votre témoignage à Pascale Ribes, hein, qui est la présidente de l'APF France Handicap. On le ressent hein, ce soir dans les messages des auditeurs, il ne faut pas réduire le débat sur les handicaps au seul fauteuil roulant. Est-ce qu'on pourrait éventuellement envisager de changer ce logo, notamment sur les places de parking, Pascale Ribes?
Alors ça dépend pas que de moi, mais je pense que ce logo, en fait, simplement, je pense que d'abord il est connu, reconnu partout, hein, pas qu'en France, hein, c'est un logo quand même international, et ça veut pas forcément dire, les places en tout cas qui sont marquées avec le logo en question, signifie simplement qu'il faut avoir une carte finalement de stationnement pour pouvoir stationner sur ces places-là. Ça ne veut pas dire que la personne qui stationne est en fauteuil roulant. Ça veut dire qu'elle a une carte qui justifie qu'elle a quand même donc des difficultés dans sa mobilité. Voilà. Après le logo, c'est peut-être tout simplement parce que malheureusement, on va dire comme ça, le handicap invisible, ça ne se voit pas. Le fauteuil roulant, c'est quelque chose qui marque et qui est compris par tout le monde. Mais en aucun cas ces places ne sont réservées qu'au fauteuil roulant et ça reste donc un logo qui est ce qu'il est, qui est critiquable, mais qui reste internationalement en tout cas connu.
Alors,
et reconnu.
J'insiste, hein, il y a beaucoup de témoignages ce soir pour nous dire que les handicaps ont des formes diverses. Sylvain Payette, initialement les Jeux Paralympiques, ils étaient réservés aux seuls sportifs en fauteuil roulant et peut-être aussi aux mutilés de guerre. Désormais c'est ouvert à toute forme de handicap, y compris les déficiences mentales. Là encore, il n'y a pratiquement plus de limites, quelle que soit la forme du handicap pour participer aux JO.
Il y a quelques limites à travers la classification, mais comme vous l'avez dit, au départ, c'était non pas réservé, mais ça a été structuré et organisé au départ par un neurochirurgien allemand, le professeur Gutmann, à Stockmanville, en Angleterre, avec les mutilés de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vrai qu'au départ, ça s'est structuré de cette manière-là, avec ce type de public-là, puis ça a ensuite été ouvert en 76 aux personnes avec qui étaient amputées, à des gens mal marchands, etc. Et donc au fur et à mesure, on a intégré, c'est d'ailleurs en 2000 qu'on a intégré pour la première fois les personnes avec un handicap mental, avec une difficulté sur l'intégration, ce qui fait qu'on a re-questionné le système de classification pour mieux intégrer encore les personnes avec des besoins spécifiques, notamment les personnes avec un handicap mental.
Mais sur la déficience mentale, pas mal de commentaires qui nous disent, mais à l'époque, il y avait une tricherie à propos des athlètes aux déficiences mentales. C'est quoi cette histoire ?
Alors cette histoire, c'est l'histoire de l'équipe espagnole de basket qui a gagné les Jeux de Sydney en 2000 et qui, en rentrant des Jeux, en fait, dans cette équipe, il y avait un journaliste d'un quotidien, je crois, de presse écrite, qui avait dénoncé en fait le fait que dans la classification, on n'arrivait pas bien à évaluer finalement le handicap mental des personnes, en tout cas les conséquences, et que donc du coup, il y avait une faille entre guillemets dans le système de classification, ce qui a valu au sport adapté, en tout cas au monde du sport adapté, de devoir sortir un peu du mouvement paralympique, non pas dans son organisation, mais dans sa classification, pour re-questionner ces éléments et revenir avec une classification qui soit homogène et qui soit fiable, tout comme on l'a aujourd'hui, on essaie de l'avoir sur le handicap moteur, le handicap visuel. Et pour répondre aussi à la question juste avant, là, en complément, puisque comme vous l'avez dit aussi, je suis délégué général de JAXED, sur la notion de handicap et sur les Jeux paralympiques, on a eu aussi, juste avant ces Jeux, une campagne qui a été lancée par l'IPC, donc l'International Paralympic Committee.
Campagne de sensibilisation.
De sensibilisation, et en fait, où il y a 15% de la planète qui est en situation de handicap. C'est une campagne avec une couleur violette, avec comme symbole, alors c'est pas un fauteuil roulant, c'est une espèce de rond avec un camembert qui représente les 15% que sont les personnes en situation de handicap. Donc on a un peu plus d'1,2 milliard de personnes dans le monde qui sont en situation de handicap à un moment de leur vie, de manière plus ou moins importante, et qui ont des besoins spécifiques, tout comme on peut avoir des besoins spécifiques quand on va être un peu plus avancé dans son âge, ou quand on va avoir des besoins spécifiques quand on est temporairement avec une jambe dans le plat si on est allé au ski ou qu'on s'est cassé la figure sur un skatepark cet été.
Allez, on retourne au standard avec Anne qui nous appelle de Vincennes, près de Paris. Bonsoir Anne.
Oui, bonsoir. Moi, je suis malvoyante hein, et j'ai un témoignage, ben, plusieurs d'ailleurs, mais déjà sur les salles de sport, parce que je suis malvoyante. Et donc, pour moi, c'est très compliqué de courir dans la rue. Donc, je vais dans des salles de sport. Mmh. Je vois difficilement les distances et donc c'est très compliqué. Mais par contre, sur les salles de sport, j'ai un peu de mal à utiliser les matériels parce que ben, ils ne sont pas vocalisés, j'y vois très peu. J'arrive à lire certains matériels de dernière génération, mais bon, c'est pas évident. Et pour des amis qui sont totalement aveugles, c'est inaccessible. Hein. Et donc pour eux, c'est très compliqué de courir dans la rue. Il faut qu'ils aient un accompagnant et c'est très compliqué. Voilà. Donc,
on va poser la question. Merci de ce témoignage. Merci bien.
Et ensuite, oui. Voilà, c'est ça met en relation avec les problèmes de trottoirs, etc., où les trottoirs ne sont pas forcément adaptés. Et où ça pose des problèmes aux personnes malvoyantes et aveugles, où c'est vraiment très compliqué pour nous.
Merci.
Et la loi de 2005 n'est pas forcément appliquée dans toutes les villes. Hein. C'est vraiment très compliqué pour nous.
Bon, eh bien, on a pris bonne note de ce témoignage. Anne, on va soumettre votre question à Soraya Compagnie, qui, je le rappelle, est architecte urbaniste. Ces salles de sport qui ont fleuri un peu partout dans les villes. Comme toutes les salles publiques, elles devraient être accessibles aux personnes en situation de handicap. Et on entend bien qu'on est loin du compte.
Les salles de sport doivent être accessibles aux personnes handicapées. C'est la réglementation qui oblige qu'ils le mettent en accessibilité. Mais là, la question qui est soulevée, c'est la question de l'accessibilité des équipements. La réglementation, c'est une réglementation européenne, c'est une directive européenne. Récente directive d'accessibilité qui dit que les équipements, les produits, les services doivent être accessibles. On n'en est pas encore là. Et ce n'est pas uniquement les équipements sportifs qui ne sont pas accessibles. C'est dans tous les domaines, les équipements ne sont pas, d'une manière générale, accessibles. Que ce soit des équipements domestiques, que ce soit des équipements médicaux.
C'est pourtant une obligation.
Non, ce n'est pas encore... Enfin, la directive européenne dit que c'est une obligation, mais cette directive n'est pas encore transposée en droit français. Donc, il faut que ça se fasse d'ici un an ou plus tard. Mais c'est une nécessité. Dans tous les domaines, les équipements doivent être accessibles.
Sergio nous appelle. Vous êtes à Paris. Bonsoir, Sergio.
Bonsoir.
Quel est votre témoignage ou votre question?
Moi, je suis père d'un jeune homme en situation de handicap intellectuel, mais je suis aussi enseignant des droits des personnes en situation de handicap dans une école d'ingénieurs à Paris. Et je peux témoigner que, en fait, aujourd'hui en France, les élèves ingénieurs et architectes ont très peu de cours sur la conception universelle, ce qui pose un gros problème. Et d'ailleurs, il y a une étude il y a quelques années qui montrait que l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité disait que 25% des écoles construites après 2008 n'étaient pas accessibles selon les règles en vigueur. Et puis, la méconnaissance dans la matière a justifié aussi le pas en arrière qui a représenté la loi Elan en France.
La loi Elan, c'est une loi 2019 sous Emmanuel
qui
Macron.
Qui a réduit le seuil d'accessibilité des immeubles neufs à 20%. Aux Nations Unies, on vient clairement de le dire, la France n'a pas encore intégré l'approche du handicap fondée sur les droits de l'homme. C'est ce que regrette le comité des droits des personnes handicapées. Et je peux vous dire une chose, aujourd'hui en France, il y a très peu de personnes qui connaissent le contenu de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, alors que dans la hiérarchie des normes, c'est du droit en vigueur et c'est
sa valeur juridique est supérieure à la loi de 2005.
Merci de ce témoignage. Merci de ce témoignage. On va redire ce que vous disiez tout à l'heure, Soraya Compagni, c'est que la formation n'est pas assez performante dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles d'urbanisme pour prendre en considération. Il y a un deuxième aspect de la question qui concerne cette loi Élan, une loi dont les détracteurs disent qu'elle a fait reculer les objectifs d'accessibilité des logements. On est passé de 100% d'accessibilité à seulement 20%. Comment on explique ça, Soraya Compagni? Ça a été mal vécu, forcément.
Ça a été mal vécu, et effectivement, c'est un retour en arrière. C'est un retour en arrière, puisque avant, tous les logements neufs devaient être accessibles. Maintenant, c'est 20%. Les autres doivent être évolutifs.
Comment ça a été justifié?
Ça a été justifié
politiquement. Oui.
Politiquement, c'était une décision politique. C'était une décision politique. Moi, je n'ai pas de justification. J'ai bien suivi cette loi et les discussions, etc. Je n'ai jamais trouvé une justification.
C'est-à-dire que cette même loi disait que
objectif, qui puisse réellement des arguments qui puissent réellement justifier une telle décision.
Parce qu'en contrepartie, dans cette même loi de 2019, l'ascenseur est devenu obligatoire dans les immeubles de plus de 2 étages,
oui,
et les appartements desservis par les ascenseurs devaient être évolutifs. Ça veut dire quoi, évolutif?
Évolutif, ça veut dire que, alors là aussi, c'est un autre problème, c'est que les logements, ils peuvent, à la demande d'habitants, par la suite, selon ses besoins, devenir accessibles. C'est-à-dire un blocage réel pour les locations.
Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas conçu pour accueillir, sauf à faire de gros travaux.
Sauf à faire des gros travaux.
Il nous reste que quelques minutes, Pascal Ribes. Je voudrais évoquer avec vous le dossier chaud du moment. C'est le bras de fer avec les parlementaires. Il y a même une pétition qui a circulé. Des manifestations sont prévues le mois prochain pour revoir le calcul de l'allocation adulte handicapé pour que les revenus du conjoint ne soient plus pris en compte dans le mode de calcul. Ça va être débattu mi-octobre par les sénateurs en deuxième lecture. Est-ce que vous avez bon espoir de voir cette revendication entendue?
Écoutez, je l'espère. Si on laisse s'exprimer, en tout cas, nos représentants, donc à l'Assemblée nationale comme au Sénat, parce que ça n'a pas été le cas lors du passage en force à l'Assemblée nationale, lors du dernier passage à l'Assemblée nationale.
En première lecture, oui.
Donc en fait, il y a eu, enfin c'était au mois de juin dernier, donc le gouvernement, on va dire pour simplifier, est passé en force à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que les députés n'ont pas pu s'exprimer sur le pour ou contre la déconjugalisation. Beaucoup étaient pour. Donc c'est la déconjugalisation, c'est le fait de ne pas compter finalement les ressources du conjoint lorsque vous êtes marié. Eh bien, si vous êtes handicapé, vous avez droit à votre AAH. C'est ça que ça veut dire la déconjugalisation. C'est pas juste. Vous ne devez pas être à la charge de votre conjoint. Eh bien, donc, les députés n'ont pas eu le loisir de pouvoir donc en débattre, puisqu'il y a eu le jeu du vote réservé, puis du vote bloqué, qui ont fait que, finalement, il y a eu interdiction de voter, débattre sur le sujet. Et le gouvernement, à ce moment-là, a présenté, donc, pour clore le débat, un amendement permettant des modalités de calcul différentes, mais restant dans le cadre de l'AAH aujourd'hui, qui est conjugalisé, dont la liquidation dépend des revenus du conjoint, avec simplement un abattement supplémentaire pour pouvoir mieux absorber finalement les revenus du conjoint.
Et ce sera débattu. Donc
ça n'a rien à voir avec la déconjugalisation. Et donc ça repasse.
Le 12 octobre prochain, en deuxième lecture, par les sénateurs. Je voudrais vous donner le témoignage de Franck. On ne peut plus le prendre, malheureusement. Il est dans le Vercors. Mais je vais lire son témoignage. Je suis autiste Asperger, vice-champion de France en sport adapté. Il y a une belle reconnaissance du handicap en France, dit-il, et même s'il reste des difficultés, eh bien ça se l'améliore petit à petit. On va terminer avec Sylvain Payette. À Rio, en 2016, la délégation française était arrivée au 12e rang du classement des médailles. Il y avait eu 28 breloques, je crois, dont 9 en or. Est-ce qu'on peut espérer mieux cette année à Tokyo?
On l'espère. On espère tous avoir des le plus de podiums possible. Juste pour aussi revenir sur un témoignage de tout à l'heure de la personne qui était déficiente visuelle, il faut savoir aussi qu'aux Jeux paralympiques, quand on a un guide qui court avec un athlète déficient visuel, il est lui-même aussi médaillé parce qu'il a autant de...
Ah oui.
En tout cas, il accompagne au quotidien cette personne-là. Donc, c'est vraiment des binômes. Donc, on espère qu'on aura plein d'athlètes. On a déjà 4 médailles. On attend aussi des grandes épreuves comme l'athlétisme et puis encore le programme de natation. Puis, il y a plein d'autres sports comme l'escrime, etc., qui sont pourvoyeurs de médailles historiques au niveau des Jeux paralympiques. Et puis, comme vous le disiez, le sport est un formidable vecteur de positivité et de montrer que les choses sont possibles. On peut, dans certains sports, mettre en même temps des personnes déficientes visuelles, déficientes motrices, et puis des personnes valides à pratiquer ensemble, comme par exemple sur le handi basket. Donc, c'est tout le travail et l'expertise qu'apporte la Fédération Handisport ou la Fédération de sport adapté aux autres fédérations pour pouvoir intégrer aussi des personnes avec ces besoins spécifiques dans les différents clubs. Donc, c'est par aussi la formation et la formation des encadrants que on arrive à faire changer le regard et à faire prendre en compte et à proposer de pratiquer à ces handisportifs et puis changer le regard à travers le sport sur ces personnes avec des besoins spécifiques.
30 secondes, vous parlez des encadrants, je voudrais parler du coach sportif. Dernière question, pour un coach sportif, accompagner une personne en situation de handicap, est-ce que ça exige une formation ou un diplôme particulier? La réponse en 30 secondes.
Alors oui, il y a des formations spécifiques qui sont proposées avec l'État, avec la filière APA à l'université. Mm-hmm. Donc il y a des moyens de pouvoir se former pour pouvoir encadrer et accompagner au mieux ces athlètes.
Eh bien merci d'être venu se parler ce soir du handicap sur France Inter. On va remercier l'équipe du Téléphone Sonne. Il y avait Adèle Domas, Pierre Dessertaine et Zoé Fauchet. À la technique ce soir, Sybille Clamins, et il y avait aussi Philippe Duclos et Loïc Frapsos. Il est bientôt 20h.